des sujets qui vous interpellent. Voici Jean-Luc Mongrain.
Pour la première fois depuis la découverte des corps sans vie de ces deux filles samedi dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, Madame Lemieux, la maman de Romy et de Nora, s'est exprimée publiquement. Vous avez entendu l'extrait au complet en début d'émission. Et on se demande, est-ce que ça fait partie du processus de deuil? Parce que lorsque tu es témoin de ce propos-là, que tu regardes ça à la télévision, tu deviens véritablement bouleversé toi-même en écoutant cette maman s'exprimer. Et là, tu te dis, est-ce qu'il est nécessaire qu'elle passe à travers ce geste-là? Le docteur Christine Groux est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec et répond à nos questions là-dessus. Bonjour, docteur Groux.
Bonjour, Monsieur Mongrain.
Dites-moi, à toutes les fois qu'il y a des drames comme ceux-là, on entend la maman souvent lancer d'abord un message de dire « Reviens à la maison, si t'es bien, appelle-nous, on va t'accueillir, etc. » Ou encore, lorsqu'il y a une perte de vie, des enfants qui sont assassinés et tués, la maman va sur place rendre le témoignage du fond de son âme, de la perte qu'elle vient de vivre, en fait, du deuil qu'elle vit, voire même de sa propre mort à quelque part. Est-ce que c'est un processus normal?
Ben, en fait, le processus de deuil, il y a des composantes qui se ressemblent d'une personne à l'autre, mais en même temps, il va varier d'une personne à l'autre en fonction de différentes variables. Puis d'entrée de jeu, je voudrais adresser mes condoléances à Mme Lemieux puis à sa famille, parce que c'est une douleur qui est non seulement inqualifiable, mais qui est aussi intolérable. Alors, je vous dirais qu'en général, quand dans les jours qui suivent, la personne est en choc, et le choc, souvent, il va se manifester par une torpeur, par une incapacité d'action. Donc, tant mieux si cette maman-là est capable d'agir. Maintenant, c'est difficile pour moi de parler de cette mère-là parce que je ne sais pas si elle agit selon quel conseil ou selon quelle motivation. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de traverser son deuil. Mais en général, on va toujours avoir une période de choc pendant laquelle il y a des gens qui vont jusqu'à se dissocier. Ça veut dire qu'ils sont même pas capables de s'approcher des émotions parce que ça fait trop mal. Alors, c'est comme si on était dans une espèce de coma psychologique, si vous voulez. Donc, il y a des gens qui réagissent comme ça puis qui sont même pas capables de réagir dans les jours après. Et chose certaine, souvent après, on va voir une période qui est caractérisée par des pleurs, par de la colère, par une recherche de coupable, par une recherche de sens. Puis ensuite, on va voir une période de désorganisation. Et ça, c'est un peu ce que j'appelle la descente aux enfers. C'est-à-dire que la personne va se replier sur elle-même, va se désintéresser, va avoir elle-même souvent des idées de mort, va culpabiliser beaucoup, va essayer de chercher un sens à tout ça. Et ensuite, on va arriver à la reconstruction. Mais ça prend du temps quand on perd un enfant. Et ça prend vraiment du temps, puis ça prend souvent aussi du soutien de la part de l'entourage. Ça prend de l'aide professionnelle parfois. Et ensuite, on va arriver à une période d'adaptation. Puis chaque individu va essayer de trouver les façons d'aller mieux. Il y a des gens qui vont vouloir ne pas penser, ne pas retourner dans les affaires des défunts. Il y en a d'autres qui vont vouloir s'en rapprocher, regarder des photos, revivre les moments vécus en images, en photos, en musique, etc. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas une recette, puis il n'y a pas une durée temporelle non plus.
Je comprends, mais on connaît le processus de deuil. Il y a un modèle de processus de deuil, c'est-à-dire il y a des étapes, comme vous venez de nous en faire part, mais le fait de sortir sur la place publique alors que c'est quelque chose qui est médiatisé, mais mon drame est tellement intime et intérieur, est-ce que c'est comme un exorcisme que l'on fait, une libération en envoyant ma peine dans le public?
En fait, vous avez tout à fait raison. La peine, elle est très, très, très intime, puis elle est difficilement partageable. Ici, effectivement, c'est un message qu'on envoie publiquement. Et là où ça peut être bénéfique, c'est que tous les parents qui entendent ce message-là et qui ont des enfants peuvent s'identifier à cette mère-là. Alors, c'est sûr que ça peut donner un sentiment d'être un peu moins seul, mais on demeure quand même seul avec le drame. Puis je vous dirais, tous les parents ne sont pas nécessairement capables de faire ça au moment où ils sont en choc. Mais c'est effectivement une façon de s'adresser à ces enfants disparus. C'est une façon de faire en sorte de ne pas être seul avec ce drame-là.
Le drame est d'autant plus grave. Est-ce que c'est vrai pour la peine? Mettons, un accident d'automobile, perte d'un enfant. Bon, l'accident, c'est l'accident. Mais là, il y a une trame dramatique sous-jacente à ça qui fait même appel possiblement à un drame familial ou une déchirure. Est-ce que la mère, la survivante, participe à ce drame-là en se disant « Et s'il n'y avait pas eu ce bris familial? » Est-ce qu'on développe une culpabilité?
Bien, possiblement, c'est difficile pour moi de parler.
Je comprends, mais je parle de façon générale.
Mais c'est certain que dans un contexte traumatique, il y a toujours un moment où il y a des sentiments de culpabilité qui vont apparaître, puis dont on doit s'affranchir. Mais il y a toujours, dans la recherche de sens, des sentiments qui vont apparaître à un moment donné. Ce qui est difficile dans le cas actuel, c'est que on ne comprend pas ce qui est arrivé, donc c'est impossible de donner un sens. Puis effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire que quand on perd un enfant, c'est toujours dramatique. Mais le perdre, par exemple, des suites d'un combat contre un cancer qui dure un an, le perdre dans un accident de la route, puis le perdre dans un contexte...
Il y a une réponse, à cette perte.
Il y a une réponse. Dans certains cas, il y a un deuil qui se fait en partie du vivant de la personne. Dans le cas, par exemple, d'une maladie longue et prolongée. Dans le cas d'un accident, ben le sens est plus facile à trouver, même si c'est pas moins dramatique. Donc, effectivement, ça fait la différence, les circonstances du décès, les circonstances du trauma. Ça fait une différence dans la résolution, je vous dirais. Puis l'autre chose qui fait une différence, c'est l'histoire même du parent, l'histoire antérieure du parent et l'histoire du parent avec son enfant ou avec ses enfants va faire une différence. Les ressources qui vont entourer le parent par la suite, l'aide psychologique va faire une différence.
Chose certaine, vous, comme psychologue, à quiconque ça pourrait arriver, la solution est d'en parler et de trouver une ressource. Ce n'est pas de se refermer sur soi. Vous m'avez parlé d'un coma psychologique. S'il ne faudrait pas non plus qu'il y ait, je ne sais pas moi, une réclusion même physique.
Faut faire attention, ça pourrait arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas pour tous les individus. C'est pour ça que je vous dis, les réactions varient d'un individu à l'autre, mais on ne peut pas contraindre toute personne qui vit cette situation-là de parler nécessairement quand elle est en choc. Il y a des gens qui sont incapables de faire ça, et s'ils sont incapables de faire ça, c'est pour se protéger psychologiquement.
Il faut respecter ça.
Absolument.
D'accord, parce que souvent, tu sais, on a dit ah, « pleure, ça va te faire du bien, pleure, ça va te faire du bien ». La personne répond « je suis pas capable de pleurer, j'ai plus de larmes, j'ai plus rien, ça sort pas ». Il faut pas pousser, il faut pas provoquer ça.
Il faut pas provoquer, ça sortira bien en temps opportun parce que ça va finir par sortir. Mais comme je vous dis, à partir du moment où la personne est en choc, c'est rare qu'elle pleure. Elle va pleurer après. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas forcer, on peut pas dire il y a une façon linéaire de faire les choses. Ça dépend beaucoup de la personne, ça dépend de l'état dans lequel elle est. Il y a des gens qui seront effectivement pas capables de parler, il y a des gens qui ne voudront en aucun cas s'adresser en public ou sortir en public. Donc, je vous dirais que ça va varier d'un individu à l'autre, puis il n'y a pas de recette magique. Et de toute façon, ça va être un processus assez infernal pour la personne qui va se résoudre par ailleurs, parce qu'il faut quand même envoyer un message d'espoir.
Oui, bien sûr.
Mais cela dit, il y a quand même ce que j'appelle une descente aux enfers quand on perd un enfant, avant de voir la remontée vers une sérénité.
Merci beaucoup, Dr. Christine Groux, de vos lumières en cette matière et les présidentes de l'Ordre des psychologues du Québec. Merci, madame.
Avec plaisir.
On s'arrête pour une pause et au retour, il y a eu une déclaration de l'Organisation mondiale de la santé disant « Écoutez, le retour à une vie normale comme connue antérieurement » n'est pas dans un avenir prévisible. On va parler à quelqu'un de l'Organisation mondiale de la santé au retour de la pause.